On se rend compte pour la nuit acoustique. Warning Collectif, qu'est-ce que c'est ?
Alors Warning sont de jeunes musiciens qui sont issus du Conservatoire National Supérieur pour la plupart, tous même d'ailleurs je crois. En fait, ils se sont rencontrés dans la classe d'Alexandros Markeas. C'est principalement par ce biais-là que je les ai rencontrés aussi. Moi, je suis un petit peu plus âgé qu'eux. Mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Ce sont des gens qui, tout d'ailleurs comme nous dans le cadre de l'ensemble Lynx, qui sont très intéressés par le rapport que l'on peut avoir entre musique et la spatialité en fait du lieu du concert. Ils pensent beaucoup le rapport au corps notamment. Alors ça, c'est peut-être plus leur spécialité. Et justement, dans le cadre de cette résidence qu'on a eue ensemble pour monter la nuit acoustique, leur recherche était très axée sur comment un musicien peut s'incarner sur scène autrement qu'en étant assis sur une chaise et jouer la partition qu'il a devant lui. Et moi, je suis venu dans ce projet-là avec une thématique qui m'était chère, qui est cette question du détournement aujourd'hui du son pour manipuler les populations, pour contrôler, voire torturer, voire pourquoi pas tuer. Ce sont des recherches qui ont eu cours tout au long du XXe siècle. Donc j'ai découvert un livre absolument incroyable qui est sorti en 2011 de Juliette Volclair, qui s'appelle « Le son comme arme », et qui retrace toute cette historique des recherches scientifiques autour des armées et des polices sur le son. Et qui d'ailleurs en profite pour démystifier tout un tas d'idées reçues et au contraire de lever le voile sur des choses dont on ne parle pas, qui sont pourtant graves et assez violentes. Donc effectivement, vous pouvez imaginer que pour un musicien, découvrir toute cette malveillance que l'on aime le plus au monde, c'est quand même assez choquant. Et donc j'avais eu un premier projet avec un jeune groupe en Angleterre, à Londres, qui était une petite pièce de 10 minutes. Et là, je voulais vraiment aller jusqu'au théâtre et avoir une dimension beaucoup plus incarnée scéniquement.
Là, vous venez me rappeler quelque chose d'un livre qu'on avait publié où un musicien qui, pendant la guerre d'Algérie, avait consacré ses activités, puisqu'il était musicien, coup de chance pour lui, il était préposé à donner la gégène. Bah, vous savez qu'on faisait des interrogatoires, et vous savez qu'il faut, pour interroger quelqu'un, quand les polices ou l'armée interrogent, il lui faut un enregistreur. Et puis, vous savez, comme on n'a pas l'électricité courante, on a un instrument, on fait fonctionner l'électricité. En fait, on utilisait, alors les services de renseignement utilisaient la gégène, c'est horrible hein, ce que je raconte, pour achever l'effet de la gare, c'est ce que faisaient les Français. Donc ils n'utilisaient pas tellement magnéto pour enregistrer, mais ça leur permettait d'achever après l'interrogatoire. Pour montrer la question du son, du matériel et comment on peut le détourner. Donc évidemment, quand on donnait au militaire, on lui donnait l'appareil enregistré. La GGN, c'était un appareil d'accompagnement, mais c'était l'appareil d'accompagnement qui faisait le travail.
On lit toute une foule de choses absolument atroces dans le livre de Juliette Volclair. On lit que, par exemple, les avions de l'armée israélienne survolent en rase-motte la bande de Gaza pour passer le mur du son à quelques dizaines de mètres au-dessus des maisons, que les maisons se fissurent, que les enfants dorment plus la nuit. Évidemment, on lit toutes les techniques de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, survolant en hélicoptère les forêts avec des cris d'enfants, avec des chants traditionnels qui parlant de fantômes, enfin. Et donc quand j'ai lu ce livre, je me suis dit c'est pas possible. Et d'ailleurs ce livre, c'est une des choses qui est très belle dans ce livre, parce que c'est finalement un essai avec toute une partie scientifique très documentée, mais c'est aussi un livre engagé, c'est-à-dire que Juliette Volclair, qui est quelqu'un qui travaille pour la radio, à Radio Libertaire, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de faire le constat de ses pratiques, mais qui va plus loin, qui dit, à la fin du livre, elle dit, bon, ok, voilà, on en est là, maintenant, est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on réagit ? Elle provoque finalement les artistes en leur disant, c'est à vous de faire quelque chose, il faut qu'on en parle, et donc de l'idée de faire ce spectacle avec Warning. Et d'ailleurs, c'est une coïncidence, mais Warning, typiquement, voilà, le son, c'est aussi la question des sons, au-delà de la torture et au-delà des armées, c'est aussi la question du son utilitaire. C'est-à-dire le son qui n'est pas utilisé de manière musicale, mais qui est utilisé pour avertir, pour prévenir, pour comme alarme. C'est d'ailleurs aujourd'hui une dimension très très importante dans la recherche sur le son. À l'IRCAM, c'est vraiment quelque chose de très très important. Étudier comment une alarme peut faire comprendre d'où vient le problème, à quel point le problème est grave, à quel point il faut vite sortir de la voiture ou de je sais pas quel appareil parce qu'il y a danger. Vraiment le design sonore, hein, c'est comme ça qu'on appelle cela. Il y a même maintenant un master qui existe sur cette question. C'est vraiment une donnée très 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 étudiée aujourd'hui. Et on a essayé aussi d'intégrer finalement dans ce spectacle, on réapprivoise tous ces sons et on essaye de les remettre dans un contexte musical.
On joue sur cette ambiguïté de plus en plus d'oppression soft.
Ce que démontre de manière très très pertinente Gilles Vauclair, et ce qui est finalement le plus grave et en même temps le plus insidieux, c'est que le son devient petit à petit une manière de quadriller l'espace public et de permettre à des entreprises privées de le privatiser, en fait, cet espace. Donc on voit ça déjà avec la publicité de manière visuelle, mais l'avantage de la publicité, c'est qu'on peut espérer fermer les yeux et passer outre. Le son, on peut pas. On ne sait pas d'où il vient, c'est-à-dire que même si on l'entend, on ne sait pas comment y remédier puisque les sources sont invisibles. Et en plus, du point de vue de la législation, on est très très en retard. Il y a rien qui est fait, tout est opaque. Et alors, c'est ça aussi qui intéresse beaucoup les armées, c'est que le son ne laisse pas de traces. Quand on brutalise avec des alarmes extrêmement fortes des manifestants, comment vous voulez prouver après coup que telle blessure de l'oreille vient de telle sirène qui a été utilisée? C'est impossible. Donc ça arrange tout le monde. C'est une question très grave. Revenant de Rome, et revenant disons plutôt de la Villa Médicis, on redécouvre l'espace urbain, on se rend compte que la pollution sonore, c'est pas qu'une expression, c'est vraiment quelque chose de très fort et de très dangereux. Et encore, la pollution, c'est encore une autre question. Mais disons, l'utilisation du son, il faut qu'il soit pensé, il faut qu'il soit normalisé, de manière, comme disait Gérard Griset, à mettre en place une écologie du son.
Vous voulez dire que Rome est une ville sereine d'un point de vue du sonore ?
Non. Je dis la ville, le jardin de la Villa Médicis, c'était plutôt... Et encore. Non. Rome, c'est une ville très, très bruyante et très chaotique. Et heureusement, ça me permettait quelquefois d'aller prendre un petit bain de son et d'ambiance dans les rues qui mènent à la villa.
Vous allez traduire comment cela sans divulguer, mais donner quelques pistes ?
Comme souvent dans ma musique et dans mes travaux, j'en arrive assez vite à l'humour et certaines distances. Donc évidemment, le prisme de la radio est assez utilisé. Donc pendant le spectacle, on se met à entendre des sortes de parodies d'émissions de radio vantant telle arme sonore comme on vanterait tel nouvel aspirateur. C'est d'ailleurs une des choses qui est les plus sidérantes dans le livre de Gilles Vauclair, c'est toutes les citations, parce qu'elle cite tous les marchands d'armes, en fait, qui vantent leurs armes totalement au-delà de ce qui est, vraisemblable. Parce qu'en fait, c'est de la propagande, c'est vraiment de la propagande. C'est-à-dire qu'il faut à la fois vendre, on exagère complètement les capacités d'une arme, mais aussi l'idée, c'est de dire, cette armée possède telle arme, donc de faire moyen de pression, en fait, sur les manifestations ou sur les autres armées en disant, attention, Donc c'est vraiment de la propagande. On a des citations, c'est complètement comique. Alors évidemment, ça fait froid dans le dos quand on le lit comme ça dans le livre, mais nous, on a choisi de le traiter vraiment plus parce que notre but, enfin mon but dans ce spectacle, c'est pas du tout d'être moralisateur. Je suis pas là pour dire attention, c'est mal. Le but, c'est d'en parler et le meilleur moyen que de marquer les gens et d'en parler sans être lourd et sans être moralisateur, c'est de passer par l'humour. C'est une chose qui revient assez souvent dans mon travail finalement.